émission exceptionnelle ce lundi. Nous ne sommes pas le dernier lundi du mois de septembre, mais nous avons avancé notre émission pour la dignité parce que nous recevons aujourd'hui Andrew Knapp, qui est un professeur diplômé d'Oxford et que nous avons invité avec la médiathèque intercommunale de Digne parce qu'il vient de publier aux éditions Talendier un très gros livre, très bien documenté, qui s'intitule « Les Français sous les bombardiers ». Voilà, alors bonjour Andy.
Bonjour et merci de m'avoir invité à votre émission. Je suis bien content d'être à Digne et j'attends avec beaucoup d'intérêt à la fois la conférence demain et même la suite de cette émission.
Voilà, merci. Donc c'est un grand plaisir de l'accueillir. Alors Amnesty International, le groupe de Digne, organise une émission qui s'appelle « Pour la dignité » où il est question de l'actualité d'Amnesty International, des activités du mouvement et de la dignité humaine, bien sûr, au sens large. Donc, voilà, donc c'est la rentrée au Forum des associations. Le 6 septembre, nous étions présents. On a remarqué que, plus que d'habitude, les gens sont venus à notre stand pour signer nos pétitions. C'est vrai que nous avons pris un peu du congé cet été, mais les membres d'Amnesty ont continué à envoyer des lettres. Et c'est vrai que aussi les actualités sont quand même inquiétantes et beaucoup de personnes se sont rapprochées de nous. On a des jeunes qui sont décidés à venir nous rejoindre et ça nous fait vraiment plaisir. Ça va un peu rajeunir notre groupe. Voilà, donc c'était très intéressant ce forum parce qu'on a senti une mobilisation autour des droits humains qui sont vraiment en danger au vu des actualités récentes. Alors, le sommaire de cette émission. D'abord, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi le groupe dinois a invité un historien. Ensuite, on va interviewer Andrew Knapp sur son film et sur son livre. Ensuite, nous parlerons des actualités d'Amnesty International. Vous verrez qu'elles sont en lien étroit avec le sujet. Et enfin, nous terminerons par les activités prochaines du groupe dinois et des groupes de la région, notamment le groupe d'Amnesty International de Manosque. Voilà, donc le programme de cette émission. Alors pourquoi Amnesty International et le groupe dinois a-t-il invité cet historien qui traite d'un sujet évoquant la Deuxième Guerre mondiale, alors qu'Amnesty International, à cette époque-là, n'avait pas été créé, puisque c'est un mouvement qui date de 1961. Alors, c'est très simple parce qu'en fait, après la guerre, les grands textes internationaux ont été rédigés parce que le monde découvrait, avait vécu l'horreur et découvrait des horreurs inimaginables avec les camps de labor. Et c'est à la suite de ça que beaucoup de personnes ont dit « plus jamais ça » et que finalement, de grands textes internationaux de protection des droits humains ont été rédigés pour libérer les hommes, où qu'ils soient, de la peur et de la misère. Et c'est ainsi qu'en 1948, le 10 décembre, a été signée la Déclaration universelle des droits de l'homme à Paris. Et puis ensuite, les grands textes des conventions de Genève, la 4e convention de Genève, le 12 août 1949, qui était relative justement à la protection des personnes civiles en temps de guerre. Et puis, une avancée énorme, c'est que les civils, c'était tous les civils. C'est-à-dire, il n'y avait pas des civils ennemis et des civils amis. Donc la protection concerne, depuis 1949, tous les civils. Voilà, et puis cette 4e convention de Genève a été, on a rajouté des protocoles notamment en 1977, qui concerne la protection des victimes lors des guerres civiles. Et puis, le statut de Rome de la Cour pénale internationale, qui reprend beaucoup des articles de la Convention de Genève, et qui est donc la Cour pénale internationale a été créée pour juger les crimes les plus graves. Et donc, parmi ces crimes les plus graves, vous avez le crime de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre. À noter aussi que cette Cour pénale internationale, qui donc juge les crimes les plus graves, a exclu la peine de mort de son arsenal. Et donc, c'est tout à fait... nous, Amnesty, qui sommes un mouvement abolitionniste, on souscrit pleinement à ce statut de Rome de la Cour pénale internationale. Alors Amnesty a beaucoup, beaucoup fait pour faire avancer le droit international. On a énormément agi pour la création de la Cour pénale internationale. Quand elle a été créée, on a aussi agi pour que les États non seulement signent le statut de Rome, mais le ratifie également, afin qu'elle puisse fonctionner. Donc, on s'appuie énormément sur tous ces textes internationaux. Parallèlement, et c'est aussi dans le sujet, on a fait, il y a quelques années, une campagne énorme pour qu'il y ait un traité sur le commerce des armes, parce qu'on se rendait compte que le commerce de la banane était beaucoup plus contrôlé que le commerce des armes et que ça causait des atrocités dans beaucoup de pays. Quand les armes circulaient, la violence était très importante. Donc on avait obtenu, c'était la première pétition photographique et on avait remis 1 million de visages de personnes qui étaient en faveur du traité. On avait remis ça à l'ONU et finalement les États ont accepté, ont travaillé à la rédaction d'un traité et le traité existe maintenant et maintenant il faut pousser pour qu'il soit signé, ratifié et surtout respecté par un maximum de pays. Voilà donc pourquoi l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, c'est important de la connaître pour éviter aussi de reproduire ce que nos anciens ont vécu dans leur chair. Voilà, alors maintenant, on va passer une petite chanson. Donc, c'est un texte de René Char, chanté par Hélène Martin. L'enregistrement est peut-être pas très bon, mais ça s'appelle « Chanson des villes ». C'est dédié aux villes martyres.
Cloisonné, ça fait si troubadour. Quels sont ces cris, ces trahisons, ô mes amis, ô ma maison.
Alors, bonjour André Knapp.
Bonjour.
Voilà, alors, vous venez de publier un livre aux éditions Talendier, Les Français sous les bombaliers, 1940-1945. En même temps, vous avez participé à un documentaire.
Un documentaire fait par Catherine Monfajon pour Phare et Balise, c'est la maison de production. Oui.
Voilà.
Et qui est sorti sur France 3, je crois que c'était le 12 mai, quelque chose comme ça.
Oui. Et donc, c'est le même sujet, puisque le titre du documentaire, c'est « La France sous les bombaliers ».
Oui, les titres sont quasiment identiques.
Sont quasiment identiques.
Oui.
Alors, pourquoi un tel sujet ?
Ça remonte à il y a assez longtemps. J'ai fait une thèse de sciences politiques sur ce qui fut à l'époque la plus grande municipalité communiste de la France, c'est-à-dire Le Havre. Et c'était au début des années 80, et j'ai donc fait un certain nombre de recherches à la ville du Havre. Et à l'intérieur, dans le hall d'entrée de l'hôtel de ville, il y avait une énorme photo, une sorte de panorama de ce qu'avait été le centre du Havre en janvier 45. Sous la neige, et des ruines, vraiment un paysage lunaire. Et bien entendu, on pouvait constater sur place que la ville avait été entièrement reconstruite. Je me posais donc la question du pourquoi. Je sais que c'était les Britanniques qui étaient responsables du bombardement du Havre, mais sans trop savoir les circonstances dans lesquelles ça avait été fait. Et je crois que il y a en France une très forte mémoire régionale des bombardements, mais une faible mémoire nationale. Ça ne fait pas encore partie du récit des années noires au niveau national. Et donc, moi, quand j'étais 20 ans plus tard, c'était il y a une dizaine d'années, j'étais un peu entre deux projets de mon travail de politiste. J'avais imaginé de faire un petit article, un seul article, sur le bombardement du Havre, en essayant de comprendre le pourquoi et les circonstances. Et j'ai très vite constaté qu'en fait, j'avais affaire à un programme de bombardement beaucoup plus vaste, dont je n'étais absolument pas au courant. Il y a eu un autre ouvrage consacré à la question au niveau national, c'est celui d'Eddy Florentin qui est sorti en 1998, je crois, et j'ai bien profité de cet ouvrage. Ce n'est pas mon approche, je ne partage pas tout à fait l'approche d'Eddy Florentin, mais enfin, pour moi, c'était en quelque sorte un point de départ. Donc, mes interrogations sur le Havre, et puis la suite de mes lectures, dont notamment le livre d'Eddy Florentin. J'ai commencé ça il y a une dizaine d'années. J'ai eu aussi un coup de chance. Je l'ai envoyé le brouillon de mon article sur le Havre à un monsieur qui s'appelle Richard Overy, qui lui mettait en place une équipe pour étudier les bombardements sur l'ensemble de l'Europe occidentale, Grande-Bretagne, Italie, France, Allemagne. Et il m'a invité à assurer le volet français de cette étude d'équipe. Et ensuite, je me suis mis notamment en équipe avec mon homologue italienne pour faire un livre sur les bombardements de la France et de l'Italie, un livre qui est sorti il y a plus de 2 ans maintenant en Angleterre. Voilà un peu le parcours de ce projet pour moi.
Voilà, donc le livre que vous venez de sortir, je l'ai lu, il est passionnant, un petit peu technique au début, et puis ensuite, il y a beaucoup de témoignages. Donc ce livre, c'est une partie du livre que vous avez sorti en anglais. Il est enrichi par le travail que vous avez fait en réalisant le film, et notamment par les nombreux témoignages que vous avez récoltés en rencontrant des témoins.
Et surtout, c'est Catherine Monfajon qui a rencontré beaucoup de témoins. Moi, j'ai fait, personnellement, j'ai fait, je crois, 2 entretiens en direct, notamment avec Jean Coste et avec Max Potter. Mais beaucoup des témoignages étaient recueillis par Catherine Monfajon pour le film. Le projet du livre français et le projet du film se sont un peu allés de pair. À ceci, il faut aussi ajouter que j'ai profité d'un certain nombre de témoignages écrits, déposés d'une part au Mémorial de Caen. C'est un centre très, très, très important de documentation sur la Deuxième Guerre. Et d'autre part, peut-être moins connu que le Mémorial de Caen, c'est l'Association pour l'autobiographie qui se trouve pas très, très loin d'ici, à Ambérieu-en-Bugey, où n'importe qui peut déposer son autobiographie ou des bribes de mémoire. Et c'est ouvert à la consultation du grand public, ce que je trouve assez intéressant comme démarche. Alors, à l'Association pour l'autobiographie, il y avait par exemple un témoignage passionnant de Simone Barbotin. Catherine Monfajon avait bien repéré cette personne, elle l'a trouvé et elle l'a interviewé. Donc, Madame Barbotin a pu amplifier son témoignage écrit devant la caméra de Catherine Monfajon. Voilà.
Oui, alors, une petite réflexion personnelle. Je suis né à Marseille et le bombardement du 27 mai 1944 est présent dans la mémoire de tous les Marseillais et beaucoup l'ont raconté à leurs enfants. Ça a été mon cas. Et c'est vrai que par rapport à l'enseignement qu'on a reçu à l'école, on a très peu parlé de ces bombardements alliés. Autant c'était présent dans la mémoire collective des gens qui ont vécu cette terrible aventure, enfin terrible désastre, autant c'était relativement absent de... Et je crois que ce livre vient combler ce vide et apporte un petit peu des réponses à cette question. Mais pourquoi les Alliés, nos amis, venaient-ils bombarder ainsi nos villes? Et donc, c'est vraiment très intéressant de lire cet ouvrage qui est une vue d'ensemble, non seulement des bombardements sur la France, mais des tactiques de guerre et donc ça donne une vision vraiment très intéressante de ce pan d'histoire.
À ma connaissance, en effet, il y a eu 2 ouvrages jusqu'ici sur les bombardements dans leur ensemble. Il y a eu Eddie Florentin, il y a donc un peu plus de 15 ans, il y a moi. Sans doute, il y en aura d'autres. Sans doute, mon ouvrage sera à son tour dépassé par des recherches des jeunes qui vont venir. Il reste énormément de choses à faire. J'ai l'impression d'avoir fait ce que j'ai pu, mais j'ai gratté un peu la surface. Il y a énormément de choses, par exemple, qu'on ne sait pas sur la défense passive ou sur les évacuations. Comment les évacués ont-ils été accueillis, dans quelles conditions, etc. Donc, il reste énormément de choses à faire et sans doute d'autres chercheurs, en grattant un peu plus que moi sur des questions précises, vont trouver autre chose.
Voilà, alors Andrew Knapp, vous avez déjà fait une conférence le 12 septembre
à Sisteron.
Donc, Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu le déroulé de votre conférence de demain à la médiathèque de Digne? Et puis en même temps, bon, j'ai assisté à la conférence Assisteron et vous avez laissé aussi la place aux témoins qui ont vécu le bombardement de Sisteron, qui a été terrible, puisqu'il y a eu 140 morts. Donc il y a eu des témoignages très forts de ces personnes qui ont vécu ces dramatiques bombardements. Je pense qu'à Digne aussi, vous allez laisser dans le débat la parole aussi à ces témoins hein, qui sont maintenant des personnes âgées et qui ont toujours ça présent dans leur cœur, comme on a pu s'en rendre compte à Sisteron.
En effet, disons que au cœur des deux conférences, il y a deux volets. D'une part, j'essaie d'expliquer, de donner une idée des dimensions des bombardements, des tonnes de bombes, du nombre de victimes, mais aussi du pourquoi des bombardements. Pourquoi les Alliés ont visé telle ou telle catégorie de cible en France et quelles étaient la différence dans la démarche des Alliés lorsqu'ils bombardaient la France et lorsqu'ils bombardaient l'Allemagne. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est les réactions des Français, à la fois au niveau de l'État français, de Vichy, qui essayait quand même de faire ce qu'il pouvait pour protéger les civils, parce que sinon il perdait le peu de légitimité qui lui restait. Puis les réactions des Français eux-mêmes, quels étaient leurs ressentiments vis-à-vis des Alliés. Enfin, les réactions de la France libre et de la résistance, qui étaient très, on imagine, très, très, très critiques, mais ne pas voulant rompre avec les Alliés. Donc là, ce sont deux volets en quelque sorte communs aux deux conférences. À Sisteron, j'ai un tout petit peu évoqué le bombardement de Sisteron. Je m'abstiendrai de faire de même pour Digne, parce que à Digne, il y a déjà eu une conférence par un spécialiste bien plus mieux renseigné que moi sur le bombardement de Digne. Par contre, puisque la conférence est organisée en partenariat avec Amnesty, j'encadre en quelque sorte les deux volets dont je viens de parler par deux parties concernant notamment l'évolution du droit international, c'est-à-dire les tentatives de limiter les bombardements avant 1939 et puis la suite que vous venez d'évoquer lors de l'introduction de cette émission, c'est-à-dire après les guerres, les tentatives avec les conventions de Genève, avec les protocoles de 1977, avec le statut de la Cour pénale internationale, d'encadrer, de limiter les bombardements, notamment en ce qui concerne les civils. J'ajoute, j'épouse tout à fait ce que vous venez de dire sur le statut des civils. Je crois que les Alliés et aussi les Français faisaient à l'époque de la guerre une distinction très claire entre les civils allemands où franchement on n'était qu'une minorité à critiquer le bombardement des civils allemands et les civils français qui eux devaient être protégés. Dans le droit international, bien entendu, un civil c'est un civil, un point c'est tout. Qu'il soit un adversaire ou un ami.
Bien sûr. Puis nous sommes Amnesty International. Il y a 4 millions de membres partout dans le monde. Et donc, les civils sont les civils du monde entier.
Oui.
Voilà. C'est très bien. Donc, je vais rappeler, si vous, les auditeurs veulent venir pour approfondir le sujet, je vous rappelle que donc, demain, mardi 16 septembre, à la médiathèque intercommunale de Digne-les-Bains. Dès 15h, vous aurez la projection du documentaire « La France sous les bombes alliées ». Et Andrew Knapp fera une présentation du film et notamment des témoins qui parlent dans ce film.
Présentation très courte, quand même.
Présentation très courte. Donc, le film, ça commencera à 15h. Le film dure 1h30. Ensuite, il y aura une petite pause, donc aux alentours de 17h. Et puis, à 18h, la conférence d'Andrew Knapp, intitulée « Les Français sous les bombardiers 1940-1945 », avec un débat à la fin. Donc, si vous voulez en savoir beaucoup plus sur cet aspect de la Seconde Guerre mondiale, venez nombreux. Vous aurez la possibilité également d'acheter ce livre. Puisque...
Ah, c'est même l'essentiel.
Et Andrew Knapp se fera un plaisir de vous le dédicacer.
Voilà.
Donc, la ruelle sera présente et avec un certain nombre d'exemplaires de cet ouvrage vraiment passionnant. Je vous remercie vivement de...
Merci beaucoup.
D'avoir, merci beaucoup, d'être venu à notre émission pour la dignité. Et c'est vrai que connaître cette histoire, c'est aussi un combat pour la dignité humaine. Merci beaucoup. Nous allons maintenant écouter...
À demain, j'espère.
À demain. Nous allons écouter maintenant Moustaki dans sa chanson « Hiroshima ».
Par la colombe et l'olivier, par la détresse du prisonnier, par l'enfant qui n'y est pour rien, peut-être viendra-t-elle demain, avec les mots de tous les jours, avec les gestes de l'amour, avec la peur, avec la faim, peut-être viendra-t-elle demain. Par tous ceux qui sont déjà morts, par tous ceux qui vivent encore, par ceux qui voudraient vivre, peut-être viendra-t-elle demain, avec les faibles, avec les forts, avec tous ceux qui sont d'accord, ne serait-il que quelques-uns, peut-être viendra-t-elle demain. Par l'espérance abandonnée, à Hiroshima ou plus loin, peut-être viendra-t-elle demain. À Hiroshima ou plus loin, peut-être viendra-t-elle demain. À Hiroshima ou plus loin, peut-être viendra-t-elle demain. La paix.
Voilà, merci beaucoup Andrew Knapp. Nous allons maintenant parler de l'actualité d'Amnesty International. Voilà, parce que hélas, les atteintes aux droits humains n'ont pas cessé avec les vacances. Et si vous allez sur le site d'Amnesty International France.fr, vous verrez que nous continuons à travailler énormément. Alors, on a notre campagne Stop Torture qui continue. Cette campagne, nous l'avons décidée au niveau international parce qu'on s'est rendu compte qu'après une période où vraiment la torture était rejetée par tous les États, c'est revenu petit à petit, et notamment à partir des événements du 11 septembre. Et on a commencé à admettre à nouveau ce traitement cruel et inhumain qui est complètement rejeté par tous les grands textes internationaux. Donc, on s'est dit, il faut que vraiment les États démocratiques ne peuvent pas donner des leçons en matière de droits humains s'ils agissent comme les terroristes et s'ils utilisent les mêmes méthodes. Donc, on a décidé cette campagne Stop Torture. Et vous verrez que sur le site, vous avez des pétitions en ligne à signer. N'hésitez pas à y aller et à ajouter votre nom aux milliers de personnes qui ont déjà signé pour cette campagne. Ensuite, toujours sur le site, vous avez un rapport qui a été édité par Amnesty International et qui concerne l'Ukraine. Amnesty dit qu'il y a des crimes de guerre. Donc, vous voyez, on est toujours dans le même débat. Hein. Il y a des crimes de guerre qui sont commis en Ukraine avec l'ingérence de la Russie. On a de nouvelles preuves, hein, notamment des images satellites. Et ces images sont corroborées aussi par les nombreux témoignages que nous avons recueillis de gens qui sont là-bas. On sait que des milices ukrainiennes et des forces séparatistes se sont rendues responsables de crimes de guerre. Des images satellites donc font état d'une présence croissante d'armements et d'artillerie russes dans l'est de l'Ukraine, ce qui veut dire que la Russie a pénétré en Ukraine et que donc on n'est plus dans une situation de guerre civile, mais on est dans une situation de guerre internationale. Et le secrétaire général d'Amnesty International a dit « Toutes les parties au conflit se sont montrées indifférentes à l'égard de la vie des civils et négligent de manière flagrante leur obligation internationale. » Voilà. Donc c'est un sujet qui nous préoccupe beaucoup. Il y a des chercheurs d'Amnesty qui ont recueilli des informations. Et donc avec ces photos et ces témoignages, nous pouvons affirmer que c'est un conflit armé international dans lequel de nombreux crimes de guerre sont commis de part et d'autre. Et il faut absolument que les civils en Ukraine soient protégés et obtiennent justice. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur le site ce reportage et ces documents sur cette guerre en Ukraine. Voilà, alors ensuite, vous avez aussi, des documents sur Israël et les territoires palestiniens occupés, hein, et où on a pu aussi voir que des civils avaient été pris pour cible des deux côtés, avec des différences dans le nombre de avec des différences dans le nombre de victimes. Bien sûr, la puissance de frappe d'Israël est sans commune mesure avec la puissance de frappe des Palestiniens, des groupes armés palestiniens, mais de toute façon, ce sont toujours des victimes qui sont prises pour cible. Dans l'opération barrière protectrice, plus de 2000 Palestiniens, majoritairement des civils, ont trouvé la mort. Du côté israélien, il y a 64 soldats israéliens et 3 civils qui ont trouvé la mort aussi par des tirs de mortier. Donc Amnesty International condamne ces attaques qui visent des civils et qui donc sont contraires aux textes internationaux de protection des droits humains. À plusieurs reprises, le Conseil de sécurité des Nations Unies aurait dû saisir la Cour pénale internationale, mais il est resté paralysé en grande partie à cause du veto systématique des États-Unis contre les résolutions critiques à l'égard d'Israël. La Cour pénale internationale a été saisie fin juillet par l'avocat français Gilles Devers au nom du ministre palestinien de la Justice, mais elle s'est déclarée incompétente. En parallèle, le 23 juillet, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, créer une commission d'enquête internationale indépendante, dotée d'un mandat qui lui permet d'enquêter sur la violation commise par toutes les parties au conflit actuel. Sans surprise, à peine constituée, cette commission d'experts a été qualifiée de « tribunal fantoche » par Israël, qui a annoncé la mise en place de ses propres enquêtes. Donc voilà, on est juge et partie, ça pose un petit peu problème. Un scénario qui rappelle l'enterrement du rapport de la commission d'enquête qui avait suivi l'opération Plomb durci à Gaza durant l'hiver 2008-2009. Donc c'est toujours un petit peu la même histoire qui se répète et qui alimente donc la colère, le désespoir des populations qui vivent un blocus, qui vivent des bombes, des destructions de maisons. Il faudra encore combien de morts, combien de vies détruites pour que les parties au conflit et la communauté internationale entendent que la sécurité et la paix ne se construisent pas sur les crimes et sur l'impunité. Voilà, donc j'ai tiré ce propos de l'éditorial de notre journal La Chronique d'Amnesty International. Donc l'éditorial a été réalisé par notre présidente Geneviève Garrigos. Vous trouvez cette chronique à la médiathèque, puisque le groupe Dinois abonne chaque année la médiathèque à notre journal, où vous avez des informations sur l'ensemble des violations des droits humains que traite Amnesty International. Voilà, alors on a aussi sur notre site une rubrique sur les ventes d'armes de la France. La France a signé le traité sur le commerce des armes, mais l'opacité règne toujours.
L'opacité, avant c'était le franc, maintenant c'est l'euro.
Voilà. Donc la grande question notamment, c'est: est-ce que la France a vendu des armes à Israël? On ne le sait pas, et c'est dommage que les parlementaires ne puissent pas avoir ces documents, de même que l'ensemble des citoyens français, parce que c'est notre pays, on est en droit de savoir ce qu'on vend et à qui on le vend.
Et pourquoi.
Et pourquoi faire. Voilà, parce que normalement, dans le traité international, on ne peut pas vendre des armes à des pays qui vont commettre des crimes de guerre et attaquer notamment les civils. Voilà. Et puis, ensuite, nous avons aussi la position d'Amnesty International sur les assassinats par décapitation de personnes par l'État islamique. Amnesty dit que, bien sûr, condamne ces atrocités. Mais pour Amnesty International, c'est aussi le sommet de l'iceberg. Il y a aussi des atrocités qui sont commises sur les populations qui sont soumises à cet État islamique. Donc c'est des exécutions, des meurtres d'enfants, des personnes qui fuient ces atrocités. Donc c'est énormément d'horreur qui se passe dans ce monde.
Oui, je voulais juste ajouter que cette question des bombardements est toujours d'actualité. D'une part, de manière historique, il est très intéressant et pas très réjouissant pour un Britannique de constater que pendant l'entre-deux-guerres, ce sont les Britanniques qui ont été en quelque sorte des pionniers en matière de bombardement, précisément dans cette région, au-dessus de la Palestine, au-dessus de l'Irak, et notamment le Kurdistan, et au-dessus du Waziristan, les Britanniques ont bombardé les civils pendant l'entre-deux-guerres au nom d'opérations dites de police. J'ajoute qu'à l'heure qu'il est, les Américains se préparent sans doute à des frappes chirurgicales, en tout cas bien plus précises que pendant la Deuxième Guerre, mais des frappes qui vont faire des morts en nombre considérable sans doute contre le soi-disant État islamique. On comprend le pourquoi, mais on sait aussi que ça risque même très fort d'avoir des effets parfaitement contre-productifs.
Oui, d'autant plus que Amnesty International met l'accent sur le fait que dans les populations qui sont sous le contrôle de ces terroristes, il y a des gens qui se sont convertis, mais qui se sont convertis de force. C'était la conversion ou la mort. Hein. Donc ce ne sont pas des gens qui sont avec les terroristes, hein, mais qui sont contraints. Hein. Ce sont des prisonniers de l'intérieur et ils sont menacés aussi par ces frappes si elles ne sont pas vraiment chirurgicales.
Et ne pensez-vous pas que de trop relayer cette information plutôt que de ne pas la relayer, de leur faire de la publicité en relayant ces exécutions, même si elles sont masquées, même si elles ne sont pas montrées à l'image, ça leur faire un petit peu trop de publicité?
Là, j'ai pas d'avis sur la question. C'est vrai que c'est indigne. Et bon, on est dans une société de l'image et du scoop, mais justement. Mais bon, on voit pas aussi les bombes quand elles s'abattent et qu'elles détruisent des vies, des enfants qui meurent. C'est aussi atroce. Hein. Et donc, c'est vrai qu'il faut agir. C'est vrai que on peut pas laisser. De même, on ne pouvait pas laisser les nazis s'emparer du monde. C'était extrêmement urgent d'agir. Là aussi, hein, devant des faits comme cela, il faut agir, mais toujours avec le souci, déjà de ne pas dire il y a les bons d'un côté et les méchants de l'autre. Parce que des bons et des méchants, il y en a partout, même dans nos sociétés. Et puis, tous les gens qui sont... avec ces groupes terroristes ne sont pas forcément tous des terroristes. Vous avez des gens qui ont été obligés de se convertir, mais qui auraient préféré fuir. Et donc, voilà, il y a toujours des civils et il faut faire aussi très attention pour les protéger. Voilà. Ensuite, c'est pas très réjouissant, c'est vrai, mais l'actualité n'est pas très réjouissante ces derniers temps. Alors, on va un petit peu parler des prochaines activités donc, du groupe d'Inoua et des groupes de la région. Alors, tout d'abord, le 26 et 27 septembre, de 9h30 à 18h, il y a un atelier d'écriture aux correspondances de Manosque. Donc, les correspondances de Manosque, c'est un événement qui a lieu chaque année, fin septembre. Et chaque année, le groupe d'Amnesty International de Manosque y participe, puisque l'écriture, c'est notre première arme. Hein. Le symbole d'Amnesty, c'est le stylo. Hein. Écrire son indignation, demander la libération de prisonniers d'opinion, demander la fin de ces crimes de guerre. Voilà. Et donc, le groupe de Manosque propose au public des actions en faveur des personnes menacées dans leurs droits fondamentaux. Donc, il s'agira d'écrire des lettres, des pétitions. Vous aurez une documentation diverse. Et le groupe aussi sollicite le stylo et le talent des écrivains qui sont présents à cette manifestation pour intervenir en faveur des victimes des violations de ces droits. Les artistes du spectacle, les comédiens, les chanteurs, les musiciens invités sont également appelés à défendre ces personnes. Voilà, donc si vous allez aux correspondances à Manosque, vous pouvez le vendredi 26 septembre et le samedi 27 septembre aller au stand d'Amnesty International, place Saint-Sauveur, de 9h30 à 18h. Nos amis de Manosque vous présenteront des lettres à faire, des pétitions à signer et des documents sur le mouvement. Ensuite, le mardi 30 septembre 2014 à Digne-les-Bains, c'est notre réunion de rentrée du groupe. Nous nous réunissons tous les derniers mardis de chaque mois à 18h dans une des salles des associations à côté de la mairie de Digne. Et nous, donc, pendant ces réunions, nous préparons nos actions. Donc, vous êtes, si vous voulez venir voir comment ça se passe, il n'y a aucun problème, nous vous accueillerons avec plaisir. Déjà, nous savons qu'on a des jeunes qui vont venir nous rejoindre. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà, alors ensuite, le 10 et 11 octobre, on fait notre foire au livre d'automne. Donc, c'est un événement qui a lieu deux fois par an. Nous recevons énormément de livres qui nous sont donnés et nous les vendons au profit d'Amnesty International. Donc, ça se passe à la salle de l'Atrium le vendredi 10 octobre de 14h à 19h30. Et puis le samedi 11 octobre de 9h à 18h. Donc là, vous avez des milliers de livres qui sont mis en exposition. On passe 2-3 jours à les porter, à les ranger par catégorie pour que ce soit agréable pour les gens qui cherchent des ouvrages. Alors n'hésitez pas, vous pouvez avoir des livres que vous cherchez à des prix modiques. Et puis en même temps, vous contribuez à financer notre mouvement, parce que je vous rappelle qu'Amnesty International ne reçoit aucune subvention d'aucun État ni d'aucune entreprise multinationale, puisque justement nous interpellons ces États et ces entreprises pour qu'elles respectent les droits humains. Et
ça préserve votre indépendance aussi.
Et ça préserve notre indépendance. Hein. Alors d'ailleurs, c'est amusant entre guillemets, parce que avec les tensions entre la Russie et les États-Unis et l'Europe, on revoit les critiques que l'on avait du temps de la guerre froide. C'est-à-dire qu'on nous a accusés d'être pro-États-Unis, puisqu'on a fait un rapport sur l'intervention de la Russie en Ukraine. Mais ces personnes qui nous ont accusés oublient que nous sommes aussi les plus grands dénonciateurs de Guantanamo, cette prison hors droit, dans laquelle des personnes ont été torturées et que le président actuel avait promis de fermer, et Guantanamo est toujours là. Voilà, donc on reçoit des critiques un peu des deux côtés parce que voilà, on retrouve un peu des tensions est-ouest et finalement c'est un gage de notre neutralité puisque on a ces critiques qui viennent des deux bords. Voilà, alors ensuite dans notre programme le 13 octobre nous aurons Antoinette Chahin qui va venir nous rendre visite. Alors Antoinette Chahin c'est une amie d'Amnesty International. C'est une jeune femme libanaise qui avait été torturée et condamnée à mort pour un crime qu'elle n'avait pas commis. Et cette condamnation reposait sur des aveux de personnes qui avaient été obtenues sous la torture. Et cette jeune femme, son cas a été porté à la connaissance d'Amnesty International, qui a envoyé des observateurs pendant son procès en appel. Et bien sûr, comme il y avait des observateurs d'Amnesty International, tout est tombé, les accusations sont tombées, il n'y avait rien dans son dossier, et elle a été innocentée et libérée. Elle avait aussi reçu énormément de l'aide de soutien dans sa prison par les membres d'Amnesty, ainsi que par les membres de l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, l'ACAT. Et c'est justement l'ACAT régionale qui invite Antoinette Chahin à son rassemblement régional à Aix, le week-end du 11-12 octobre. Et donc, comme elle a des liens très forts avec le groupe à la fois de Pertuis et de Digne, elle va arriver un petit peu avant pour aller voir le groupe de Pertuis, et puis j'irai la chercher le 13 octobre. Et elle rencontrera donc le groupe de Digne. Vous savez qu'elle est aussi, elle a reçu la médaille de la ville pour notamment son courage pendant cette terrible épreuve. Mais à la sortie de cette épreuve, quand elle était libérée, elle s'est engagée dans la lutte contre la torture et contre la peine de mort Et elle parcourt le monde justement pour porter des témoignages parce que elle a vécu ça dans sa chair. Et donc c'est un témoignage très fort que ceux qui l'ont écouté ont reçu. Et nous allons, ce lundi 13 octobre, nous allons la faire aller témoigner au lycée du Sacré-Cœur. Parce que l'année dernière, nous avions fait une intervention justement sur l'abolition de la peine de mort à ses élèves. Et donc, j'ai contacté leur professeur qui a été tout à fait d'accord pour que Antoinette Chahine vienne porter son témoignage. Voilà. Alors, peut-être ça se fera aussi au lycée Baudot-Rocha, mais je n'ai pas encore eu la réponse. Voilà, donc le 13 octobre, le groupe de Digne recevra notre amie libanaise. Et puis ensuite, bon, un peu plus tard, mais je vous donne déjà la date pour que vous le marquiez sur vos agendas. Le 21 novembre, nous aurons un concert au profit d'Amnesty International.
C'est quel jour ?
Alors, le 21 novembre, c'est un vendredi. C'est un concert de musique et de chant. Alors Odile Frison, qui travaille à Fréquence Mistral, et son compagnon Alain vont nous interpréter notamment des chansons de Barbara. Et puis Hélène Gosselin aussi viendra avec ses deux musiciens chanter gracieusement pour Amnesty International. Et nous avons aussi Guillaume Tixier, qui est membre du groupe et qui est un joueur de flûte traversière, qui viendra avec un ami pianiste pour interpréter quelques morceaux. Et puis nous avons également Gérard Schmidt-Valla, qui est un pianiste et qui est aussi membre d'Amnesty du groupe de Digne. Il est professeur de piano et il viendra aussi avec un ami pour jouer pour Amnesty. Donc ce sont des musiciens militants qui vont venir offrir un spectacle ce 21 novembre dont les bénéfices iront à Amnesty International. Et en même temps, on va passer une soirée très sympathique. On parlera des droits humains. On parlera notamment de la déclaration des droits de l'enfant, puisque le 20 novembre, ce sera les 25 ans de cette déclaration des droits de l'enfant. Et c'est vrai que quand on voit l'actualité... on voit que les enfants sont souvent en première ligne, que ce soit dans les violences, dans les conflits, mais aussi dans les violences familiales. Hein, en Angleterre, en ce moment, il y a tout un réseau pédocriminel qui est mis en accusation. C'est des affaires qui ont été longtemps étouffées dans ce pays. Mais enfin, c'est la même chose. Nous avons aussi... des affaires de pédocriminalité qui sont étouffées par des gens qui sont puissants. Et voilà, donc nous espérons aussi que ce qui se passe en Angleterre va aussi se passer en France. Voilà, donc c'est le 20 novembre, donc on fera les 25 ans de la Convention des droits de l'enfant pour que les enfants soient enfin protégés de ces violences. Et puis, donc, pour terminer, je vous rappelle la conférence demain de notre ami Andrew Knapp.
J'ajoute, je n'avais pas dit tout à l'heure, que même si moi, je n'interviendrai pas directement sur le bombardement de Digne, j'espère que des témoins vont venir nous parler un peu de ça lors de la discussion qui suivra la conférence. C'est très important.
Oui, je pense, j'en ai parlé un petit peu autour de moi et il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit oui, on va venir et puis on connaît, on a vécu ça. Il y a une personne qui m'a raconté en effet que tout le bas du boulevard avait été détruit et on sent que la mémoire est toujours très, très vive sur ce sujet pour les Dinois qui l'ont vécu. Et voilà, donc venez nombreux. De tous âges, hein. S'isteront, il y avait des jeunes aussi. C'est très intéressant de connaître cette histoire. Et donc je vous rappelle, demain, mardi 16 septembre, à la médiathèque intercommunale de Digne-les-Bains. À 15h, une présentation du film « La France sous les bombes » par Andrew Knapp, suivi de la projection. Et puis, à 18h, la conférence « Les Français sous les bombes 1940-1945 » d'Andrew Knapp, suivi d'un débat. Et c'est là que les personnes pourront venir porter leur témoignage. Voilà, donc c'est une animation que nous avons organisée avec la médiathèque et nous sommes très heureux d'avoir de très bons rapports avec cette médiathèque puisque ça fait plusieurs actions que nous faisons ensemble et c'est vrai que la médiathèque nous accueille aussi régulièrement chaque année, notamment pour notre opération 10 jours pour signer autour du 10 décembre. Et donc c'est vraiment des amis et on travaille efficacement, je pense, ensemble. Voilà, donc venez nombreux demain. Je vous remercie, Andrew Knapp, pour votre présence.
Merci de m'avoir invité.
À notre émission. Et puis on va terminer par une chanson de Barbara Göttingen qui dit justement que les enfants, ce sont les mêmes. À Paris ou à Göttingen.
Bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même. À Göttingen, ma Göttingen, pas de quai, pas de rengaine, qui se lamente et qui se traîne. Mais l'amour y fleurit quand même. À Göttingen, ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France, Hermann et Peter, Helga et Hans. À Göttingen, et que personne ne s'offense, mais les contes de notre enfance, il était une fois commence. À Göttingen, bien sûr, nous avons la Seine, et puis notre bois de Vincennes. Dieu que les roses sont belles à Göttingen, à Göttingen. Nous avons nos matins bleus, mais l'onde brise de Verlaine. Eux, c'est la mélancolie même. À Göttingen, quand ils ne savent rien nous dire, ils restent là à nous sourire. Mais nous les comprenons quand même, les enfants blonds de Göttingen. Et tant pis pour ceux qui s'étonnent. Et que les autres me pardonnent, mais les enfants, ce sont les mêmes, à Paris ou à Göttingen. Au fait que jamais ne revienne le temps du sang et de la haine, car il y a des gens que j'aime, à Göttingen. Et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre des armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen. Pour Göttingen, mais c'est bien joli tout de même, à Göttingen, et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme, pour Göttingen, pour Göttingen.